Démystifier les migrations environnementales avec Dina Ionesco.
Alors, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Alors, je préviens tout le monde, j'ai été un peu malade, donc c'est bien que je me tienne à distance, mais j'ai un peu une voix italienne, rock, qui n'est pas ma voix habituelle, mais bon, si ça devient un peu étrange, c'est à cause de ça. Donc, un grand merci, hein, vraiment, de me permettre d'être là avec vous aujourd'hui. L'invitation que j'ai reçue, je l'ai reçue dans le cadre de mon travail. Donc je travaille à l'Organisation internationale pour les migrations, qui est une agence maintenant de l'ONU qui s'occupe des questions migratoires. Et dans le cadre de cette agence, moi, mon travail est vraiment sur faire le lien entre la dégradation de l'environnement, le changement climatique, les questions des problèmes autour des ressources, des changements d'écosystèmes et la migration humaine. Et c'est dans ce cadre, donc, que nous avons réalisé, je dirais, pondu cet atlas. Et donc, je suis très contente d'avoir la chance de le présenter, parce que c'était tellement de boulot que souvent, on fait tellement de boulot et après, on a l'objet libre et il faut en parler. Donc, c'était beaucoup de sueur. Et on est trois à avoir travaillé ensemble et j'y tiens beaucoup. Donc on est trois, une collègue de l'OIM avec moi, Daria, qui est d'origine russe, et un collègue qui est chercheur universitaire, professeur, François, qui lui est belge. Moi je suis aussi une migrante, je suis d'origine roumaine, mais j'ai été réfugiée en France et je suis française et j'habite en Suisse, donc c'est un grand mélange, voilà. Donc avant de commencer sur le thème des migrations vraiment environnementales, j'aimerais bien savoir si ici dans cette salle, est-ce que si je dis, est-ce que vous êtes des migrants, vous diriez oui et qui? Alors si je demande, levez la main à mes questions s'il vous plaît. Donc qui ici est migrant? Personne. Qui ici dans la famille a quelqu'un de la génération d'avant qui a migré? Ah, ça devient très intéressant. Alors dites-moi un peu d'où?
Hollande.
Algérie. Italie. Maroc. Donc ça reste assez proche. Est-ce que quelqu'un ici se considérait quand même un migrant interne, c'est-à-dire pas international? Donc j'en conclue que pour vous la migration c'est un phénomène international, mais est-ce que quelqu'un serait ici un migrant en interne qui a bougé à l'intérieur du pays d'une région à une autre? Ah, ça devient plus familier tout de suite, hein? Oui, donc nord-sud. Est-ce que quelqu'un a déjà migré du sud vers le nord en France? Ah oui, donc finalement l'environnement, c'était peut-être pas le facteur principal dans ce cas-là. Du nord vers le sud? Oui. Est-ce que c'était à cause de la météo? Non. Est-ce que vous avez bougé à cause du travail? Oui. Est-ce que quelqu'un a bougé par amour? Oui. Est-ce que quelqu'un a bougé pour les études? La plupart. Donc vous êtes très représentatif de la migration en fait actuelle. Mais personne n'a eu à migrer pour cause de conflit. Vous avez de la chance. Il faut s'en rendre compte. Est-ce que vous connaissez des gens autour de vous? Est-ce que vous avez des amis qui ont migré de manière récente à cause d'un conflit? Pas mal. Donc d'où? Cambodge? Afghanistan? Kosovo? Kosovo-Bosnie, ouais. Vous? Kosovo? Togo? Syrie, d'accord. Mais est-ce que quelqu'un dans cette salle connaît un migrant environnemental ou climatique? Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça serait qui? En fait, ils n'existent pas. Je ne sais pas ce que je fais ici et pourquoi on a fait un bouquin. Oui, c'est bizarre. savoir, en fait, non? On n'en connaît pas, franchement. Enfin, moi, j'en connais, qui viennent de partir. Ils étaient déplacés suite aux grandes tempêtes en Dominique. J'en connais un qui a été déplacé par les inondations en Europe de l'Est. Et voilà, donc c'est des gens qui partent, qui bougent à cause d'un changement de l'environnement. Et dans ce thème de la migration environnementale, en fait, ce thème cache énormément de réalités. Ça cache une réalité de la migration interne, ça cache une réalité de migration internationale ou régionale et plein de raisons différentes. Donc c'est extrêmement vaste, différent et très complexe. Mais j'ai réfléchi comment présenter dans ce salon qui est tourné vers l'écologie, qui est tourné vers l'action, l'innovation, le travail d'une organisation internationale où souvent on se dit ils papotent, ils parlent, ils écrivent, mais qu'est-ce qu'ils font? Donc je vais essayer de vous montrer un peu les réalités de cette migration environnementale et proposer aussi qu'est-ce qu'on fait concrètement, quelles sont les solutions, quelles sont les actions. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui si on veut faire quoi que ce soit dans le domaine de la migration environnementale? Donc après mon petit tour d'horizon, je vais maintenant vous présenter. J'ai pensé peut-être, l'Atlas montre plein de cartes et des exemples. Mais moi aujourd'hui, j'ai essayé de créer cette petite conférence autour de l'idée des mythes et des fausses idées et de choses qu'on croit vraies et qu'en fait sont peut-être pas nécessairement vraies. Donc j'ai créé 10, je vais vous proposer 10 mythes de la migration environnementale, d'accord? Si ça vous va pas, hein, je peux ne pas le faire, mais ok. Donc le premier mythe, ou la première fausse idée, ou la première conception un peu étrange, c'est que c'est un truc nouveau, en fait. On se dit, mais c'est vrai, si vous regardez le travail des études universitaires sur la migration, pendant des siècles, des années, il n'y a rien eu sur l'environnement. L'environnement était le facteur... C'est un avion ou c'est... C'était le facteur caché, invisible. Et pourtant, eh bien, c'est, je pense, un des premiers facteurs de l'humanité qui a fait migrer les gens. Si vous remontez à la préhistoire, si vous remontez même dans la compréhension de la chute de grands empires dans le monde, si vous réfléchissez sur l'avancée des Huns, si vous réfléchissez sur tous les mouvements des Vikings, il y a souvent eu un changement dans la nature de l'environnement, des périodes plus chaudes ou plus froides, et c'est ça qui a permis, qui a été soit une cause ou une opportunité de cette migration. Mais alors, pourquoi est-ce que pendant des siècles, on n'en a pas parlé? Et je pense que c'est passionnant pourquoi on n'en a pas parlé, de le dire dans un salon de l'écologie. C'est que pendant tellement longtemps, ce domaine de l'environnement en général a été un peu oublié. Et ceux qui y croyaient, je pense que vous êtes parmi ceux qui sont dans l'action par rapport à l'écologie et à l'environnement, n'ont pas toujours été sur les devants de la scène. Il a fallu se battre. Et bien, dans ce thème, c'est la même chose. Ces facteurs ont toujours été cachés derrière, avant tout, l'économique. Et même si vous demandez à quelqu'un pourquoi tu es parti de chez toi aujourd'hui au Mali, dans une étude qu'on a faite, quand on a dit pourquoi vous êtes parti de chez vous, la plupart des gens, 95% des gens nous ont dit c'est parce que j'ai perdu mon boulot. Et après, on a posé la question, mais est-ce que c'est lié à un phénomène environnemental? Et là, 93%, mais oui, c'est la sécheresse, mais oui, c'est le changement de régime des pluies, mais oui, c'est la répétition de saisons de sécheresse, mais oui, c'est les ressources qui manquent. Donc en fait, souvent, eh bien, on n'en parle pas, ça reste caché. Parce que c'est aussi extrêmement difficile d'isoler ce facteur environnemental. Il est mêlé aux questions politiques. Donc peut-être ceux qui sont de Syrie ou d'Afghanistan, au départ, il y a aussi un facteur environnemental qui a contribué en fait au conflit. Et ça, on a des études vraiment intéressantes maintenant sur le cas de la Syrie, pour montrer combien des années de sécheresse répétées ont contribué à la situation aussi de difficultés politiques dans le pays. Donc voilà, souvent maintenant ce qui se passe, c'est que ce facteur environnemental est devenu au contraire très visible et très à la mode. Et tout le monde s'y intéresse. Et donc quand c'est comme ça, souvent on passe de l'invisibilité à une surexposition et on commence un peu à entendre tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'on essaye vraiment de produire des études et des données qui sont informés et qui parlent vraiment de la réalité et pas seulement des perceptions, parce que le domaine migratoire est un domaine très sensible où souvent le politique et les perceptions et les idées reçues un peu l'emportent sur la réalité des données et aussi sur la façon dont les gens vont en parler. Donc ça, c'était mon mythe numéro 1, la fausse idée que c'est une idée nouvelle. Le deuxième mythe, c'est qu'on pense tout de suite que c'est une migration, c'est une mobilité humaine internationale. Alors qu'en fait, si on regarde la majorité des mouvements de mobilité humaine liés aux questions environnementales, eh bien, ils sont avant tout internes au pays. Ce n'est pas une migration internationale. C'est souvent, comme là on a vu aux États-Unis avec les grandes tempêtes, les gens étaient déplacés à l'interne. Bien sûr, il y a des situations, par exemple le grand séisme de Haïti, beaucoup de gens se sont déplacés en Dominique, se sont déplacés vers le Brésil et vers les États-Unis. Mais la plupart des migrations environnementales restent internes. Et ça, c'est une clé parce qu'il s'agit alors à l'État, dont ces gens sont les citoyens, de gérer cela. Ce n'est pas un État tiers d'y penser nécessairement. C'est avant tout la responsabilité de Kenya de s'occuper des gens déplacés au Kenya, dans la plupart des cas. Je pars pas. Ah, c'est comme ça, je crie moins, c'est ça. C'est mieux, merci beaucoup. Donc voilà, ça. Après, bien sûr, une grande partie de ces migrations sont régionales. Donc c'est avant tout Sud-Sud, c'est avant tout intra-Amérique, intra-Asie, intra-Afrique. Il y a moins de ces mouvements qui soient Sud-Nord. Alors qu'on a l'impression que c'est une migration qui arrive en flot vers nous en Europe. La plupart d'ailleurs des pays aujourd'hui qui reçoivent des migrants, même dans les situations de conflit, ne sont pas les pays européens. C'est les pays soit du Moyen-Orient, soit les pays d'Afrique. C'est eux qui ont la plupart des réfugiés maintenant de conflit. Pour la migration vraiment environnementale, c'est plus une migration à l'interne du pays. Donc on se prend peut-être un peu la tête sur quelque chose qui n'est pas vraiment une réalité et on en fait tout un discours politique un peu alarmiste et d'invasion, alors que c'est plutôt l'affaire des pays en développement d'avoir les moyens et qu'on les soutienne pour qu'ils puissent gérer ce type de migration. Ceci ne veut pas dire que cette migration n'est pas internationale aussi et je reviendrai là-dessus. Alors, troisième mythe, c'est que quand on imagine la question de l'environnement et de la migration, on voit avant tout une image, je ne sais pas, de quel type d'événement vous voyez. Par exemple, quel type d'événement, de phénomène naturel peut être celui qui fait le plus de déplacements de population selon vous? Séisme, j'ai entendu. Avancée du désert. Inondation? Non. Oui. Tsunami. Montée. Ben vous n'êtes pas dans les mythes, là. Hein. Je ne vais plus vous interroger. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a plus de visibilité et on a fait des données. On a surtout des données sur les catastrophes soudaines. Donc, c'est vraiment les catastrophes météorologiques comme les grandes tempêtes ou les catastrophes géophysiques comme les tremblements de terre, les inondations aussi. Donc c'est plutôt tout ce qui est grandes tempêtes, qui font beaucoup de déplacements et c'est surtout les inondations qui créent le plus de déplacements internes immédiats. Donc ça, on a des chiffres. Et en fait, en moyenne, maintenant, on sait que chaque année, 26 millions de personnes sont déplacées en moyenne nouvellement chaque année par des phénomènes soudains. Mais donc, je ne parle que des phénomènes soudains. Pourquoi je dis que c'est un peu un mythe? Et monsieur a dit deux éléments qui, justement, sont très importants, très importants. C'est tout ce qui est, au contraire, très lent. Donc, désertification, salinisation des terres, érosion côtière, tout ce qui est disparition des lacs, fonte des glaciers, montée des mers. Donc tous ces phénomènes, c'est eux qui mettent en péril le plus de populations. Par exemple, les populations vivant dans des deltas très basses en Asie ou le delta du Nil. Mais le problème qu'on a, c'est si on a des données sur ces déplacements soudains parce qu'on arrive à les compter. Donc par exemple, mon organisation a une matrice de suivi des déplacements où nous comptons un par un les individus avec des caractéristiques de leur déplacement. Mais on peut dire ça si c'est une grande tempête qui déplace les gens ou un grand séisme qui déplace les gens. C'est très difficile pour la désertification d'encore une fois prouver que c'est la désertification ou la perte d'écosystème ou le manque d'eau qui déplace les gens. Donc en fait, on a mis beaucoup dans l'atlas, on a des données, des statistiques qui disent combien de gens sont à risque, dans des régions à risque. Par exemple, si on continue avec le scénario de 1,5%, on sait que 60 millions de personnes au plus bas seront dans des zones beaucoup trop chaudes, de chaleur extrême, en 2030. Et on sait combien de gens dans des grandes villes côtières dans le monde vont être exposés à la montée des eaux. Parce que 10% de la population du monde vit dans ces villes. Mais ça ne veut pas dire que tous ces gens vont être des migrants. Parce que la migration ne marche pas comme ça. Ce n'est pas juste parce que ça se dégrade que je pars. Il faut avoir les moyens de migrer. Il faut avoir aussi un état d'esprit de penser qu'on peut migrer. Donc, être à risque ne veut pas dire être migrant. Et donc, on a beaucoup de difficultés à en fait chiffrer la partie qui est peut-être la plus importante de cette migration environnementale. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'en parler, parce qu'on n'a pas les chiffres pour dire. Et encore une fois, on entend beaucoup de choses. J'entends tout le temps, alors il y a 250 millions de personnes qui vont partir d'Afrique et qui vont être en Europe en 2030. C'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait que tant de gens habitent dans ces zones qui seront soumises au stress hydrique. Mais est-ce que ça en fait des migrants? Non. Donc on entend beaucoup de choses comme ça qui sont en fait des fausses interprétations et projections. Quatrième mythe, on pense souvent que c'est un exil, que la migration est pour toujours, qu'on quitte et on a tout laissé. Alors que nous, on a vu avec nos études que la plupart des temps, par exemple, on a fait une grande étude avec une université sur le changement de dans la pluviométrie dans plusieurs pays, et bien comme le Guatemala par exemple, on se rend compte que les gens sont affectés, vont migrer, mais ils ne vont pas partir de manière permanente. C'est plutôt ce qu'on appelle une migration pendulaire. À la saison sèche, on s'en va. À la saison plus humide, on repart, on revient. Il y a les migrations qu'on appelle saisonnières par exemple, ou des migrations aussi juste qui sont chez les populations nomades, qui partent sur des routes ancestrales et ils continuent à bouger ainsi. Donc c'est pas une migration nécessairement, il y a tellement de formes différentes. Donc ça, c'était mon quatrième mythe. J'arrive à la moitié. Si c'est trop, vous me coupez au sixième, ok? Alors, une autre idée reçue, c'est que c'est une migration de masse. Et c'est vrai, quand il y a un déplacement et évacuation suite à une grande catastrophe naturelle ou suite à une catastrophe pas du tout naturelle, comme Fukushima ou Tchernobyl, ou des grandes catastrophes aussi liées à l'action humaine, il y a un grand déplacement de la population, mais la majorité des stratégies migratoires des gens face au changement de l'environnement, c'est d'envoyer une personne. Donc on envoie le frère ou la sœur ou la mère ou le père, et donc ça crée des schémas très divers selon qui part, si c'est l'homme, la femme, si c'est l'enfant, si c'est les parents qui restent avec les enfants. Mais souvent, ça reste une migration comme ça d'une partie de la famille. Et non pas tout le monde qui s'en va et qui laisse tout. Sixième mythe ou sixième fausse idée, c'est on pense, comme pour la question des migrants internationaux, donc ceux qui ne vont pas être sous la responsabilité de leur État, mais d'un État tiers, on pense donc à ces gens, il suffit de leur donner un statut de réfugié. Et on entend beaucoup parler des réfugiés climatiques pour résoudre tout le problème, en fait. Mais le problème, c'est que ce mot de réfugié climatique est impropre parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas du tout avoir le statut de réfugié sur la base de l'environnement. On peut l'avoir que sur la base de la persécution ou avoir montré le problème de persécution sur la base de la religion politique ou le sexe ou la question des croyances. Donc c'est un statut qui n'existe pas, celui de réfugié climatique, et qui est extrêmement difficile à définir parce que, comme j'ai expliqué avant, c'est très difficile juste d'isoler le facteur environnemental. Et parfois, ça peut être par exemple la sécheresse, on peut le prouver, mais ça reste encore considéré comme une migration économique et non pas environnementale. Et il y a différentes façons d'aider les gens en leur offrant d'autres types de protection, par exemple un statut temporaire ou un statut humanitaire pour les aider à rester dans le pays tiers. Parce qu'on a le droit de partir de chez soi, mais ça n'existe pas le droit d'entrer chez l'autre. Et donc ça pose quand même des grandes questions par rapport à comment résoudre cette situation. Et donc moi, je travaille dans une organisation qui réfléchit sur les politiques migratoires. Donc on discute beaucoup comment les politiques migratoires régionales, les accords entre États peuvent prévenir cette question, qu'on ne s'attende pas que tout Fidji et Kiribati et tout ça soit sous l'eau et qu'ils aient plus de terre pour qu'on y réfléchisse. On peut déjà y réfléchir maintenant si on peut offrir un statut et des moyens de migration dignes à ces gens. Alors, qui peut me dire quel était le mythe numéro 1 ? Qui écoute ? Très bien. Bon, alors, je peux continuer. Sinon, je suis obligée de faire un petit French cancan pour réveiller l'attention. Pas besoin. C'est bon. Alors, on avance, j'en suis au mythe numéro 7. Alors, une idée reçue que j'entends énormément, c'est ces pauvres migrants. Les pauvres migrants, comme les pauvres réfugiés. Et ça, moi, j'y crois pas. Moi, j'ai été réfugiée, j'ai jamais pensé que c'était mauvais. J'ai trouvé que c'était un signe de force. Mais bon, on entend quand même ça. Et en fait, ce qu'on a vu beaucoup dans nos études, c'est que les plus vulnérables, en fait, c'est souvent ceux qui n'ont pas les moyens de migrer dans le cas de l'environnement. Donc s'il y a une grande inondation, mais aussi des phénomènes terribles comme le tsunami qui est extrême, qui prouve vraiment le point que je veux faire, c'est que si on n'a pas les moyens de partir, on est plus exposé au danger que si on part. Donc parfois la migration est une façon de s'adapter au changement climatique aussi, ou c'est une façon de s'en sortir et éviter le pire. Et on peut perdre beaucoup, mais c'est une façon aussi d'avancer vers autre chose. Donc les plus vulnérables, souvent, c'est les populations qu'on appelle des populations piégées, parce que c'est toujours les plus pauvres, et qui n'ont pas les moyens même de migrer. Et plus on est pauvre, moins on a les réseaux, moins on a les ressources de partir, aller ailleurs, et moins on a de liens avec des gens déjà partis, établis et qui ont réussi et qui peuvent vous soutenir. Donc ça, c'est quand même assez terrible. Mythe numéro 8, on dit aussi les pauvres femmes, les plus vulnérables aussi. Et là, encore une fois, il y a des cas où, en effet, les femmes, malheureusement, c'est les plus vulnérables. Parce que, par exemple, on a des études qu'on a montrées aussi dans l'Atlas, c'est des inondations et les femmes ne savent pas nager. Et il y a des villages qui se préparent, il y a la gestion des risques de catastrophe, on prépare les gens et on n'a pas préparé les femmes. Elles ne savent pas où il faut aller, où elles restent pour aider celui qui est invalide et le petit. Et donc elles sont encore plus exposées. Mais en même temps, c'est une telle idée reçue de faire un groupe vulnérable globalement comme ça, de soi. Dans plein de cas, les hommes, c'est les plus vulnérables. Si vous pensez à des hommes travailleurs dans un pays difficile, dans la chaleur, dans le secteur minier, dans le secteur des constructions, sans papier, il y a beaucoup de traite aussi masculine, exposés à plein de maladies. Si ça, c'est pas de la vulnérabilité, je sais pas ce que c'est. Mais on a une tendance à faire le groupe les femmes, les enfants, les invalides et les jeunes. Et puis, on dirait, je ne sais plus qui reste, il y a juste les hommes entre 20 et 40 qui ne seraient pas vulnérables. Et ben, il y en a plein qui sont très vulnérables. Donc, en fait, si je dis tout ça, c'est parce que, comme je vous ai dit, il y a des actions très particulières. Et une des actions aussi, c'est de ne pas oublier les hommes. Mais aussi de comprendre les vulnérabilités très particulières des femmes dans certains contextes. 9. On a le sentiment que tout le monde veut partir. Et on met beaucoup de mauvaise conscience aussi en Europe sur l'épaule des pays qui reçoivent de ne pas vouloir recevoir les gens. Mais nous, ce qu'on voit dans notre travail au quotidien avec les migrants, c'est que beaucoup de migrants ne veulent pas partir. Beaucoup de gens, surtout qui sont partis dans des situations très difficiles, ne souhaiteraient pas partir. Ils aimeraient justement qu'on investisse dans la gestion des terres, dans la gestion des ressources, dans la gestion des écosystèmes, d'arrêter la déforestation, d'arrêter la destruction des oasis, tout ça pour qu'ils puissent rester et continuer leur vie dans leur contexte. Mais il y a un peu un mythe aussi autour de... les gens ont envie de partir pour aller voir l'ailleurs qui est plus beau, plus vert. Et il y a des cas où, bien sûr, les gens souhaitent partir. Et c'est un des clés de notre travail dans mon organisation, c'est d'essayer de faire que, justement, la migration soit un choix et pas une contrainte. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse à la question environnementale, pour qu'il n'y ait pas des gens obligés de bouger à cause de la dégradation. Mais par contre, s'il y a des gens qui ont envie de bouger pour travailler ou par amour ou pour les études, c'est bien. On devrait les aider et créer des façons de leur permettre de le faire. Et mon dernier mythe pour aujourd'hui, parce qu'en fait, je pourrais en créer 20 autres, mais alors il faut lire l'Atlas. Voilà. J'ai rien dit. On pense que la migration, donc, c'est souvent un échec. Et ça, on présente beaucoup la migration comme un échec. Quand on a tout essayé, que plus rien n'a marché et on s'en va. Et nous, on voit de plus en plus que ce n'est pas nécessairement un signe d'échec, que les gens ont ça dans le sang, en fait, que l'être humain est mobile et qu'il y a plein d'histoires de migration très réussies. Et on a des exemples maintenant aussi où on travaille avec des migrants et des diasporas qui sont verts. Donc, ils investissent, par exemple, dans le pays d'origine, dans la gestion des terres, dans l'énergie solaire, dans des façons d'avoir une agriculture autre, dans la gestion des ressources de la mer. Et on a plein de cas comme ça, et on essaye d'avoir toute une initiative là-dessus, sur ces diasporas vertes ou bleues, s'ils s'occupent de la mer, juste pour montrer combien la migration et les migrants eux-mêmes peuvent être des acteurs, en fait, de la lutte contre le changement climatique, et des acteurs positifs si on les engage, et que ça ne soit pas juste une histoire de tristesse. Et donc voilà, sur ça, je pense que je vais m'arrêter là. Je voulais juste dire, voilà, que la migration, moi je pense, C'est quelque chose de très étrange parce que c'est au cœur de l'humain. Par exemple, je pense quand on migre, on est à la fois super triste et très heureux. Et je pense que tous ceux qui ont changé, qui ont quitté, qui sont allés ailleurs, sont à la fois tristes de ce qu'ils laissent et excités de ce qu'ils trouvent. Et je pense que ça, c'est ça la beauté de l'humanité, d'arriver à avoir cette contradiction en fait au quotidien. On peut être heureux et triste à la fois. Et moi, je pense que ce que j'aime dans mon travail, c'est de voir quand on commence à réfléchir à des vraies solutions, des solutions de l'environnement et des solutions de la migration. Et ça aussi, parfois, ça peut paraître contradictoire. Parce que parfois, il s'agit d'aider les gens à rester et d'autres fois, il s'agit d'aider les gens à partir. Mais ce n'est pas les mêmes. Parfois, on investit dans l'environnement pour que les gens puissent rester et parfois, on investit dans une migration de travail, une migration choisie, une migration digne pour que les gens partent. Mais c'est ça la beauté de l'humanité. On est contradictoire. Donc voilà, moi j'arrête là-dessus. Je vous remercie vraiment de votre attention et s'il y a des questions... On peut bien sûr en discuter. Merci.
Merci beaucoup. Donc, j'ai le micro dans la main. Faites-moi signe et je vous le porte. Donc, il y a des questions. Je vais en prendre une série s'il y en a plusieurs.
Bonjour. Alors, j'ai beaucoup aimé votre conférence. Mais du coup, vous avez parlé d'un truc, vous avez parlé de l'Afrique qui va avoir des conditions climatiques pas viables en 2030 ou 2050 ou je sais pas quoi. Alors, même si les migrations sont pas à 100%, on peut quand même peut-être s'attendre à de grandes migrations à cause de ça. Et est-ce que vous savez s'il y a des groupes qui s'occupent de prévoir ça et d'envisager ce qu'on pourrait faire? Parce que, je sais pas, moi je suis pas spécialiste de la question, mais c'est comme si l'Afrique équatoriale sera plus viable entièrement, quoi. Donc ça va occasionner énormément de migrations.
D'autres questions?
Oui.
Bon, je crois que vous pouvez y aller. Hein.
Je vous montre ça juste. Hein, c'est une étude sur la chaleur extrême et la migration. Et ça, c'est sur l'océan. Et la migration, donc en effet, les projections de chaleur extrême, de température extrême font une bande qui traverse aussi, finalement aussi vers les Amériques et aussi vers le Pacifique. Donc en effet, il y a des projections, mais les projections migratoires sont très compliquées parce qu'il faut rentrer dans non seulement la projection climatologique, mais il faut prendre en compte, par exemple, quel est l'état de politique migratoire de mobilité, quelle est la démographie, quel est le développement économique, quelle est l'urbanisation. Donc, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens n'attendent pas d'être dans une situation extrême pour partir. Donc, beaucoup de gens partent déjà parce qu'ils perçoivent déjà un changement de l'environnement et donc beaucoup partent vers des villes qui sont elles-mêmes dans des zones pas soutenables. Donc c'est extrêmement complexe aujourd'hui et il y a beaucoup de politiques vraiment de la ville qui doivent traiter de ça. Après la question des projections, donc on est plusieurs, l'OIM aussi, on a des partenariats avec un centre aussi de météorologie et un centre qui suit les déplacements pour essayer d'avoir des projections. Et avec la Banque mondiale aussi, il y a une grande étude pour essayer de comprendre avec ces différents scénarios les différentes projections. Mais je pense que, comme j'ai dit, c'est des projections qui ont du mal à dire vraiment la réalité de la migration. On peut aussi, il y a des routes migratoires traditionnelles, et s'il y a des problématiques, les gens vont prendre ces routes encore plus. Et là, on a vu certaines routes ont été fermées et d'autres ont pris le dessus et sont parties d'un autre côté. Donc, c'est extrêmement difficile de prévoir. Même si on sait l'impact climatique, on se méfie énormément de prévisions vraiment de migration parce qu'on a aussi peur d'avoir le résultat inverse qui est tellement alarmiste et une telle crainte que tout le monde va verrouiller ses portes au lieu de penser de manière préventive. Donc il y a un éventail en fait de choses qui se font par rapport à ce problème. Il y a vraiment la force de l'action contre le changement climatique, d'en dire on investit dans le climat pour que les gens n'aient pas à partir. Et il y a des propositions plus de politique migratoire, de gestion de ces flux à un niveau régional. Et il y a des politiques de gestion interne des ressources et de la ville pour y répondre. Mais je pense qu'on n'est pas, non, on n'est pas, on essaye de ne pas donner une vision trop alarmiste. Parce que dans la question migratoire, je pense que si on est alarmiste, on se retrouve avec un effet opposé de tout ce qu'on veut atteindre en fait. Mais on parle beaucoup de prévention et aussi dans l'accord de Paris sur le climat, il y a tout un travail qui se fait maintenant sur les pertes et dommages et la prévention de déplacement pour qu'il y ait moins de pertes et dommages. Donc les solutions sont à la fois de prévention et d'investissement dans l'aujourd'hui et des politiques migratoires actuelles pour prévenir l'avenir. Mais je pense que c'est une question extrêmement difficile et c'est un domaine très difficile parce qu'on ne peut pas ouvrir, non, parce que ça ne marche pas comme ça. Les gens ne vont pas juste venir comme ça. Donc il faut vraiment gérer à un niveau avant tout intra-régional et continental et mettre déjà en place des réflexions sur la mobilité humaine pour qu'elle ne soit pas forcée. Donc je pense, nous, notre vision, c'est de ne pas se dire il ne faut pas que ces gens migrent, mais il ne faut pas qu'ils migrent de manière forcée. Donc il faut tout faire pour investir dans l'environnement pour que ces gens avant tout puissent rester chez eux. Mais en même temps, il faut créer des moyens de migration dignes pour que ces gens ne migrent pas comme réfugiés, pas comme dernier ressort et pas en catastrophe. Alors je pense que ce n'est pas une réponse très satisfaisante. Elle est longue et pas satisfaisante. Mais... On n'entend pas. Oui. Non, c'est très difficile en fait de... Non, mais je pense qu'il n'y a pas une réponse satisfaisante, mais il y a un éventail de solutions. Donc, on ne peut pas, à une si grosse question, qui est aussi une question de développement, y répondre avec une seule solution. Et pas, on ne peut pas y répondre juste avec des solutions migratoires. Il faut penser développement, il faut penser démographie, il faut penser écologie, il faut penser ville, il faut penser ressources. Donc, il faut agir sur la prévention et la réponse. Donc oui, c'est pas satisfaisant parce que c'est dur. Ouais. Mais je vais encore y réfléchir pour donner quand même une réponse plus satisfaisante, même si c'est dur.
Oui, j'avais une autre question là, concernant le statut des réfugiés. Est-ce qu'il y a débat actuellement au sein de l'OMI, par exemple, pour savoir s'il serait utile, souhaitable qu'il y ait un statut officiel de réfugié climatique? Et est-ce que vous êtes favorable à cela quand toutes les solutions de prévention ont échoué, quoi.
Alors, je réponds là. Il y avait une des questions là-bas aussi.
Oui, oui. Est-ce que dans vos études, vous prenez en compte également, est-ce que vous avez fait une comparaison dans les flux migratoires en fonction de l'aide au développement que, effectivement, on consacre ou pas au pays d'origine? Et deuxième question, est-ce que vous avez aussi fait des études sur les flux migratoires, qui vont à l'inverse de ce pourquoi souvent les mythes existent, c'est-à-dire que nous on migre aussi et on peut aussi aller dans les pays d'où viennent beaucoup de gens, hein. Voilà, donc ces flux migratoires là sont pas forcément, bien entendu, sont plus sûrement, je dirais, voulus et pas forcés. Voilà, est-ce que vous avez aussi en parallèle fait un travail sur ces deux points? Merci.
D'autres questions?
Oui, bonjour. J'ai une question sur la situation démographique. Et est-ce que vous avez des réflexions sur les politiques migratoires et, avec des outils d'action sur la situation démographique? Je ne parle pas seulement de la situation démographique des pays dont sont origines les migrants, mais y compris la situation démographique des pays occidentaux, dont certaines politiques pourraient consister à avoir un accueil des migrants peut-être plus facilité par le fait que leur démographie est moindre, et considérer ça comme plutôt une chance que la démographie occidentale soit moindre et que les migrants puissent venir dans les pays occidentaux dans cette dimension-là.
Une autre question ?
C'est plus une remarque qu'une question. Hein. Moi, j'ai bien aimé l'approche là, de la migration presque volontaire par souhait de découvrir un pays ou par amour, parce que c'est mon cas. Mon épouse est venue de l'Afrique équatoriale et ça s'est fait comme ça. Et moi, je trouve que c'est très très bien de pouvoir découvrir d'autres cultures, d'autres langues. Elle m'a initié à sa langue maternelle qui est très confidentielle. Hein. Il y a peut-être 1 million de personnes qui la parlent, donc à l'échelle du pays c'est normal, mais à l'échelle mondiale c'est rien du tout. Et en termes de découverte de la culture, moi je trouve que c'est un bienfait. Et on oublie très souvent que si on arrivait à être ouvert à l'autre, ça permettrait de favoriser, d'encourager des politiques beaucoup plus enclines à la main tendue et je pense à une ouverture des cœurs, des esprits et des frontières en même temps.
Alors avant de répondre, je me permets une remarque. C'est que la salle, il y a autant d'hommes et de femmes et je n'ai eu que des questions venant des messieurs. Alors est-ce que, comme je me passionne pour ces questions-là, je voulais juste le remarquer, alors s'il y a peut-être un deuxième round, je suis intéressée de savoir pourquoi c'est comme ça. Mais bon, c'est peut-être juste un hasard du jour. Après, vous venez de me donner une super idée, c'est de faire la suite, c'est de faire l'atlas des migrations d'amour. Je vais y penser et je vous demanderai à votre épouse d'y... Voilà, mais c'est des super questions, vraiment, merci beaucoup. Hein, et prenez pas mal ma remarque féministe, s'il vous plaît. J'ai pas pu me retenir, même si une partie de mon cerveau me dit de me taire, hein, ça sort quand même. Hein. Donc, excusez-moi là-dessus. Mais donc, voilà, il y a une question très intéressante sur cette question du statut de réfugié. Et je peux vous dire que oui, c'est un débat immense. Il y a le débat au niveau politique, il y a le débat au niveau universitaire, il y a le débat au niveau international. Maintenant, on est en train de travailler sur un grand pacte sur la migration qui est négocié par les États en ce moment. Et nous, on suit exactement est-ce que cette question environnementale et climatique sera dedans et comment. Donc, on se rend compte quand on travaille dans une organisation intergouvernementale, on est très réaliste sur l'état des discussions entre États. Et on se rend très bien compte que les États sont absolument pas prêts à créer cette catégorie et ils sont absolument pas prêts à ouvrir la Convention de Genève qui régit le droit des réfugiés pour l'ouvrir. Et d'ailleurs, même le HCR, qui est le garant de cette convention, ne souhaite pas l'élargir parce qu'on a peur de l'affaiblir. Et on en a besoin, étant donné la situation du monde. C'est tellement difficile déjà de prouver la persécution pour avoir un statut de réfugié politique, que rajouter une dimension environnementale, c'est en effet peut-être un risque d'affaiblissement. Après, moi, je pense que la plus grande limite, c'est qu'avant tout, ces migrations sont quand même internes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se soucier de ceux qui vont traverser les frontières. Et deuxièmement, c'est tellement difficile d'isoler les facteurs environnementaux. Et troisièmement, je crains, en fait, moi personnellement, qu'on obtienne le résultat opposé, c'est-à-dire qu'on crée des nouvelles boîtes. Toi, tu viens parce que s'il fait trop chaud, tu as le droit. Toi, tu viens parce que tu es pauvre, non, tu n'as pas le droit. Toi, c'est la traite des personnes, non, rentre chez toi. Et toi, c'est une grande tempête, tu peux rester. Donc il y a un petit risque en fait qu'on soit plein de bonnes intentions et qu'on se retrouve avec une situation encore plus qui exclut en fait plus. Donc sincèrement, de tout ce que je vois, c'est pas, et aussi avec le réalisme de ce que j'entends, je pense que c'est très difficile de créer une catégorie à part, hein, et que la réponse est plus dans une vraie réflexion sur les politiques migratoires. C'est-à-dire, si on a une zone en Afrique de l'Ouest où il y a tellement de difficultés par rapport à la dégradation environnementale, c'est aux États déjà de créer des espaces de libre circulation et d'accueil et des statuts peut-être pas nécessairement environnementaux, mais de protection au nom des droits de l'homme pour ces gens. Donc je pense que c'est assez paradoxal, on s'est battu pour amener de la visibilité sur le thème et puis là on dit finalement le statut environnemental c'est pas nécessairement la réponse. C'est-à-dire il faut le prendre en compte mais pas se focaliser sur cette question du statut juridique, je pense, parce qu'autrement on risque d'exclure plus. Et il y a une initiative qui s'appelle l'initiative Nansen dans laquelle on contribue et qui est maintenant sur le déplacement des personnes qui ont traversé une frontière à cause des phénomènes environnementaux et des catastrophes naturelles. Et eux qui étaient partis sur la base de l'idée qu'il y a un défaut de protection, ils sont arrivés avec la même conclusion, c'est que c'est très difficile de créer un statut. Donc on n'est pas prêt encore de finir avec la question. Il y aura énormément de débats et c'est au cœur des discussions maintenant. Est-ce qu'un statut de protection temporaire, par exemple, suffit? Ça a été le cas, par exemple, pour les Haïtiens aux États-Unis et au Brésil. Ils ont été acceptés sur une base, en fait, humanitaire. Donc c'est pas encore résolu. Après, il y a une question par rapport à l'aide au développement. Donc, on a en effet des graphiques qui font le lien et qu'on essaie de regarder aussi après la part de l'aide par rapport aux flux migratoires, mais surtout aussi la part de... Il y a aussi la réponse des diasporas par rapport aux catastrophes naturelles et leur contribution au développement. Mais le lien entre développement et migration est extrêmement complexe. Et par exemple, là, on avait fait, on s'était intéressé à la question de l'énergie. Si est-ce que beaucoup de foyers n'ont pas d'énergie, est-ce que si on les équipe en énergie, on permettra à ces gens de rester? Et on se rend compte qu'en migration, souvent, quand il y a un développement, ça permet plus de migration d'abord, plutôt que de moins de migration. Et donc du coup, on pense qu'en investissant dans les pays d'origine, il y aura moins de départs. Mais en fait, il y a un moment où il y a plus peut-être de migration parce qu'il faut avoir les moyens pour migrer. Mais en même temps, c'est une migration plus positive parce que ce n'est pas une migration de contraintes et de catastrophes et de quand on a tout perdu, mais une migration choisie. Et donc là, la migration choisie fait elle-même partie finalement du développement et on voit les retours des investissements des migrants dans le pays d'origine. Donc c'est extrêmement complexe, c'est selon les situations, mais beaucoup d'investissements de développement ne veulent pas d'abord dire moins de migration. Il y avait aussi juste une question, je pense, sur la question démographique et là aussi, quelle complexité aussi. Quand on voit en effet les différences aussi de population de jeunesse en Afrique et population vieillissante de l'Europe. Mais je pense que aussi la difficulté des migrations, c'est que c'est jamais blanc et noir. C'est toujours dans les nuances, c'est dans les gris, c'est dans les... C'est jamais, il y a tellement de gens là, ben, ça va aider là, ou il n'y a pas assez, finalement. Mais c'est tout à fait, encore une fois, je pense quand on parle de la migration, il faut penser le tout. Il faut se mettre en question par rapport à la démographie galopante qui met en cause aussi un développement et la culture et la place des femmes ou l'éducation des jeunes filles, tout ça. Mais en même temps, c'est vrai que la migration vers l'Europe, maintenant, il y a beaucoup de pays qui favorisent des schémas de migration de travail où on favorise la venue des personnes, mais c'est des migrations plus où on n'imagine pas toute la famille venir s'installer. On espère juste qu'un viendra travailler et la personne repartira. Donc c'est une autre vision aussi de la migration. C'est une migration pas nécessairement permanente, installée, mais c'est aussi je viens, je reviens. Et ça, c'est aussi, il faut penser la migration ainsi. Il faut penser la migration comme des doubles appartenances, des triples appartenances et des visas multiples d'entrée. Les gens préfèrent revenir et repartir, que d'être obligés de rester dans des statuts enfermés. Donc il y a aussi des réponses vraiment de politique migratoire face à ce que vous avez dit qui sont en place maintenant, mais encore une fois, rien n'est simple parce que ces choix aussi sont critiqués parce qu'on dit on veut que des travailleurs qualifiés et les autres. Ou au contraire, que des gens pour l'aide aux personnes âgées et les autres. Donc moi je pense qu'il y a la question de migration et démographie, encore une fois, est aussi centrale que démographie, que migration et développement ou que migration et environnement. Et malheureusement, tout s'entremêle. Donc il n'y a pas une réponse. Il y aura des dizaines de réponses, je pense, toujours selon les cas et les perspectives. Et il y avait juste une autre question sur la migration qu'on appelle la migration de confort. Et donc on a, en effet, c'est ma collègue qui a travaillé avec moi, qui est russe et qui connaît des personnes qui vont du plus froid vers le plus chaud, ou les nouveaux départs vers des zones qui se réchauffent, justement au contraire en Russie, qui a beaucoup insisté pour faire la carte et donc il y a ça s'appelle migration de confort. Donc on a trouvé beaucoup d'exemples de surtout retraités qui viennent du nord et qui préfèrent aller vers le sud, surtout aux États-Unis. Donc c'est tout à fait juste. Et je pense, encore une fois, c'est bien qu'on ait ces exemples, parce qu'encore une fois, on va au-delà de cette image du migrant qui est un pauvre air, qui a tout perdu et qui est là à attendre qu'on l'aide. Et ça, c'est plus possible. Je pense sincèrement, la migration peut être une force, autant pour la personne en individuel qu'au niveau de la communauté. Et on a la chance, je ne sais pas pour vous, si vous, je pense, vous avez un passeport qui vous permet d'aller à peu près partout. Et moi aussi, j'en ai un maintenant comme ça, mais j'ai eu un passeport qui disait je pouvais aller partout sauf en Roumanie. Et surtout, pendant des années, je n'avais pas de passeport, je pouvais aller nulle part. Et quand on a vécu ça, on aime son passeport. Et je me dis, pourquoi moi, j'ai droit d'aller où je veux et eux, non? Alors que s'ils peuvent aller librement, ils ne vont pas rester, ces gens, ils veulent rentrer chez eux. Donc voilà, mais bon, ça c'est un élément juste personnel, mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas je vous remercie. Ah, une dame, oui.
Elle a priorité.
Oui, vous avez donc évoqué, vous... l'inefficacité de faire des cases migrants, économiques, climatiques, etc. Et donc, vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous venez de l'évoquer un petit peu, de la libre circulation des personnes. Parce que moi, nous, avec notre passeport, on peut aller où on veut. Il y a des retraités, vous l'avez évoqué, qui vont au Portugal parce que, avec la retraite qu'ils ont, ils vivent mieux, etc., il fait beau. Si aujourd'hui, on pouvait envisager la libre circulation des personnes, toutes ces questions là que vous posez sur ces tiroirs où on met difficilement les gens, elles seraient estompées. Qu'est-ce que en pense le travail que vous faites vous-même?
Oui, oh, c'est une très belle question aussi, merci. Et bon, je pense aussi la migration, soit on diabolise, soit on idéalise aussi. Et je pense finalement, c'est toujours entre les deux. Il faut plein de réponses finalement, encore une fois, à votre question, je pense. Mon organisation, là, on travaille beaucoup sur influencer les débats et informer les États sur vraiment les possibilités qui existent d'une migration choisie et digne et qui respecte les droits de l'homme. Donc ça peut être des migrations pour les études, c'est des migrations pour le travail, c'est la réunification des familles, c'est la libre circulation régionale qui existe aussi en Afrique ou en Amérique. Donc, il y a toute une réflexion et un travail sur proposer des politiques migratoires qui permettent la fluidité. Parce que si on bloque, si on fait les murs, les gens vont les contourner et vont aller ailleurs. Donc, on essaye d'informer ça, de proposer des études, une réflexion, des données qui prouvent que si on bloque, les gens partiront autrement. Et qu'il vaut mieux fluidifier et offrir des possibilités plutôt que non. Mais en même temps, les États veulent garder la souveraineté de la gestion de leurs frontières. Et cela compte aussi énormément dans un contexte aussi difficile de sécurité et de leurs citoyens. Et donc il y a aussi tout un travail sur la gestion des frontières qui est fait par l'OIM. Par exemple, on travaille avec des gens qui gèrent les entrées et les sorties. Donc je pense qu'il n'y a pas de honte là-dessus non plus. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte non plus que son État essaye de protéger qui rentre sur le territoire. Donc c'est très complexe parce que je pense qu'on doit s'ouvrir à l'autre et offrir des possibilités de mouvement. Et ça, c'est par la libre circulation avant tout, je pense, commence au niveau régional. Et du niveau régional, on passe à un niveau global. Mais nous, on pousse énormément les niveaux régionaux pour des accords intra-régionaux, le Pacifique, les Amériques du Sud, l'Afrique, l'Asie, avec une perspective vraiment de fluidité des migrations. Mais il y a aussi beaucoup de cas de gens qui partent pour des régions tragiques, humanitaires, de guerre. Et donc ces gens ont aussi besoin d'une gestion très particulière de leur migration. Donc il faut aussi des réponses qui assistent et protègent des gens qui bougent pour des raisons humanitaires. On ne peut pas croire qu'on peut juste ouvrir et que tout le monde peut aller et venir comme il veut. Donc c'est un mix. Moi personnellement, je pense qu'il ne faut pas... Je pense sincèrement qu'il ne faut ni diaboliser ni idéaliser, parce que je pense que c'est ni on ferme à tout le monde et arrêter de venir parce que ça ne marchera pas, les gens viendront, mais non plus culpabiliser tout le monde que tout le monde doit venir, parce qu'il faut avoir des moyens d'intégration, il faut avoir des moyens quand même de préservation aussi de la sécurité humaine du pays, et il faut écouter aussi les communautés qui peut-être souhaitent un type de mode de vie et qui parfois ne souhaitent pas être multiculturelles. Je pense que c'est aussi valable de les écouter. Donc pour moi, les réponses ne sont jamais noires et blanches. C'est ça qui fait que je réponds trop longuement.
C'est pour ça que je me permets de couper un peu. Désolé, je ne suis pas une fille, mais j'ai juste une dernière remarque. Moi, je suis très gêné par l'hypocrisie du discours politique qui consiste à dire que les réfugiés acceptables seraient ceux qui sont uniquement contraints par les conflits et les guerres à s'exiler. Moi, je pense que, y compris les réfugiés économiques, qui sont très très utiles chez nous, moi j'estime qu'ils devraient être accueillis à bras ouverts parce que c'est eux souvent qui construisent le pays, qui font parfois les boulots les plus ingrats. Et malgré tout, on a besoin d'eux. Donc moi je trouve que les politiques sont beaucoup trop hypocrites et masquent une partie de la réalité, parce que j'estime que c'est aussi important d'accueillir des gens qui sont dans une misère économique dans leur pays, parce qu'il n'y a pas de développement économique, on en a parlé juste avant, et que ce serait à mon sens tout aussi justifié de les accueillir à bras ouverts comme les autres, tout simplement.
Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Je dis juste que le statut de réfugié est tel qu'il est. C'est pas qu'il faut pas le changer. Mais je suis d'accord et c'est pour ça que je n'aime pas ce statut de réfugié climatique, parce que je pense qu'il va enfermer. Mais bon. En tout cas, voilà. Moi, je vous remercie pour tous vos commentaires. Ah, il y a une autre question, madame. Voilà.
Merci. J'aurais pour pas ma dû question. Faire. J'aurais souhaité votre avis sur donc la question encore du statut des réfugiés. Et finalement, est-ce que le fait de ne pas reconnaître le statut de réfugié climatique, c'est pas pour les États une façon de se voiler la face et de ne pas, en les reconnaissant, donner aussi peut-être des chiffres à la population et inciter comme ça une mobilisation plus forte pour faire ce qu'il faut pour la transition énergétique. Et juste une autre petite question, est-ce que vous avez des chiffres sur la migration liée aux problèmes de santé ?
Je voudrais compléter, moi, parce que j'ai le sentiment aussi qu'en ne voulant pas donner un statut de réfugié climatique, on se voile la face et on essaye de cacher les responsabilités qu'on a dans ce changement climatique.
Non, c'est vraiment très intéressant. Moi, je pense que oui, d'une certaine façon, on se voile la face, mais en même temps, on se focalise trop sur ce statut. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer de comprendre qu'on ne veut pas que ces gens soient des réfugiés. C'est-à-dire qu'il faut faire des choses avant. Bien sûr, il faut réfléchir à ce statut aussi humanitaire, en fait, qui est un statut de crise. Être réfugié, c'est que vraiment, on est sur une responsabilité de l'État tiers parce que son pays d'origine ne peut plus s'occuper de nous. Et donc, il faut avoir une... Tous ceux qui sont réfugiés, c'est que leur État d'origine les persécute ou ne peuvent plus s'en occuper. Donc avoir un statut de réfugié climatique signifie aussi reconnaître que l'État d'origine n'a pas cette capacité et cette responsabilité. Et moi, je pense que c'est aussi très dangereux parce que c'est à tout le monde et aussi aux États d'origine, même s'il y a tout un débat sur la justice climatique en plus qui rentre en jeu, mais c'est aussi à eux de penser à l'aval les solutions qui vont des solutions d'investissement dans l'adaptation, l'atténuation des risques de leur population pour que ces gens n'aient pas à devenir des réfugiés climatiques. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense, mais en même temps, ça c'est encore une fois une partie de l'histoire, je pense, parce qu'il y a vraiment la question du statut et de la situation des gens qui vont bouger à cause de l'environnement et surtout du changement climatique maintenant est traitée par plein de domaines différents. Par le domaine humanitaire, par le domaine du développement, par le domaine des droits de l'homme et par le domaine du changement climatique. Donc l'accord de Paris a toute une partie qui parle dans le préambule des droits des migrants et a toute une partie sur les pertes et dommages. Et là, c'est très compliqué parce qu'encore une fois, c'est qui va payer quoi, pourquoi. Et il y a tout le débat de la justice climatique qui rentre en jeu. Mais moi, sincèrement, plus je travaille sur ce thème... plus je me dis attention, parce qu'on se, on se voile la face souvent, et oui, c'est des façons pour les États de fermer les portes et peut-être se cacher. Mais en même temps, c'est pas si simple, parce que il faut écouter aussi les populations du pays, et en même temps, il faut penser des solutions qui sont multiples. Si on se focalise juste sur cette histoire de donner un statut et on s'en fiche complètement des politiques préventives ou des politiques migratoires actuellement qui fluidifient les mouvements sans que ça soit des mouvements tragiques, on perd les trois quarts du problème. On va s'occuper que d'une partie du problème. C'est ceux qui vont bouger, qui vont traverser les frontières pour des raisons humanitaires tragiques. Et on oublie tous ceux qui ont envie de bouger aujourd'hui pour avoir une vie meilleure. Mais leur maison n'est pas détruite, leur terre est encore viable. Donc il faut à la fois envisager aussi les mesures d'adaptation qui permettent aux gens de rester. Il faut arriver à avoir des solutions, à aider ceux qui sont déjà en mouvement. Et il faut avoir des solutions qui voient dans l'avenir pour permettre aux gens de bouger dans des bonnes conditions. C'est pour moi un tout. On peut pas juste, on se focalise tellement sur ce statut de réfugié quand on en oublie la prévention, on en oublie. Et ça, moi, j'aime pas. Vraiment, sincèrement, je pense que encore une fois, on se focalise sur une vision très négative de la migration. Ce sera les gens quand il y aura plus d'autres solutions et qu'il faut leur donner un statut dans un pays tiers. Ça veut dire leur pays s'en occupe plus. Ils n'ont aucun choix pour rester, ils n'ont pas pu migrer de manière libre. Ça veut dire que c'est un échec, encore une fois, cette migration. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'en préoccuper. C'est pour ça que je vous dis cette initiative Nansen, on est très impliqué parce que c'est vraiment cette réflexion quel type de solution, de statut juridique, de protection feront que ces gens auront leurs droits, les droits de l'homme reconnus. En fait, leurs droits, vraiment, droit à l'éducation, droit à la culture. Maintenant, sur la santé, donc à l'OIM où je travaille, il y a un énorme département migrants et santé. Donc, 3/4 de leur travail est surtout plutôt en situation de gestion de crise et humanitaire. Donc, c'est très concret. C'est les vaccins, c'est les check-ups médicaux des gens qui partent, de ceux qui sont réinstallés dans un pays tiers. Mais des études sur l'impact des problématiques de la santé sur les migrations, il y a aussi ce domaine de recherche. Ce n'est pas le mien, donc je ne peux pas vous donner des indications exactes. Mais je sais qu'il y a un travail entre l'Organisation mondiale pour la santé et l'OIM qui touche aux questions migrants et de la santé, et que nous aussi on travaille un peu avec ceux qui travaillent sur le climat à l'Organisation mondiale de la santé pour comprendre l'impact du changement climatique sur la santé et les migrations. Donc il y a, mais c'est, je ne peux pas vous donner de manière très précise parce que ce n'est pas mon domaine. Mais je vous ai dit vraiment très sincèrement ce que je pense, et c'est difficilement défendable parfois parce qu'on n'aime pas les nuances dans la migration. Et qu'en fait, oui, les droits de l'homme, il n'y a pas de nuance. Et oui, les gens qui meurent en Méditerranée, il n'y a pas de nuance. Je suis désolée, il faut sauver les vies. Mais la migration, les politiques de la migration sont toutes en nuances. Sinon, on est dans la caricature et on n'arrive pas à répondre finalement à la réalité.
Bien, je crois qu'on peut remercier Dina et Ionesco.